Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Petit éloge amoureux est une nouvelle collection de Privat dont le concept est très séduisant. En effet, laisser toute liberté à un écrivain d'écrire sur un thème donné, de décider de ce qu'il veut transmettre à ses lecteurs est un gage d'originalité et de surprise. Bienheureuse surprise avec l'ouvrage de Christian Hautier par exemple, nous faisant découvrir récemment un Toulouse intimiste à travers sa vie d'étudiant, ses flâneries nocturnes, ses lieux privilégiés, ses rencontres informelles dont la fugacité ou la pérennité tenaient pas plus au hasard qu'à la nécessité. Aujourd'hui, il s'agit de l'Occitanie, dont l'histoire, sans sacrifier à la véracité, nous est contée d'une manière libre, ludique et pleine d'humour. Mais c'est aussi ce qui est l'essence même de cette grande région, quelque chose qui tient de l'évidence pour les gens du cru, qui ne la réalisent, la formalisent qu'à travers le regard des autres, des étrangers. Passionnant voyage avec Alain Mounier grâce à son petit éloge amoureux de l'Occitanie, c'est le titre de l'ouvrage paru chez Privat. Alain Mounier, bonjour.
Bonjour.
Voilà, alors, oui, votre ouvrage est très intéressant et décidément, je vais de découverte en découverte parce que cette collection ouvre un nouveau concept. Vous, dans votre livre, il y a à la fois des informations tout à fait didactiques, je dirais, mais pas ennuyeuses, des souvenirs, des impressions personnelles et ça rend la lecture très agréable.
Disons que le projet de ce petit éloge, c'était quand même un projet avant tout littéraire. C'est pas un livre savant, c'est pas un livre d'historien ou d'archiviste. Et donc, c'est une déambulation qui part sur le principe de me dire... quand on me demande où je suis, je dis « je suis d'ici, je suis du Midi ». Mais il ne me vient pas spontanément de dire « je suis occitan ». Et en même temps, je le suis profondément. Oui. Et c'est un petit peu le fil conducteur de ce livre, en me disant « mais pourquoi je suis ce que je ne crois pas être ?» Et je pars du coup de l'enfance.
Et personne autrefois ne disait, quand je dis autrefois, attention, je dis à nos auditeurs que vous n'avez pas un âge canonique, hein, mais c'est vrai qu'on ne disait pas « je suis occitan ».
Moi, par exemple, mes grands-parents, maternels, étaient vignerons et parlaient patois, mais ils ne disaient jamais « je parle occitan ».
Et parlaient patois, oui,
parlaient
exactement.
Patois, voilà.
Alors oui, alors la question que je me suis posée, je me suis dit « tiens, c'est marrant parce qu'on parle de l'Occitanie, on parle aussi du Pays d'Oc et on parle du Midi ».
Tout à fait.
Eh oui.
Et alors le Midi, lui, il a une connotation assez touristique, assez joyeuse, soleil,
ça fait rêver,
etc. Ça fait un
rêver.
Petit peu rêver. Le Languedoc, bon, peut-être que c'est celui qui me parle le plus, parce que c'est, en fait, on dit dans le livre l'Occitanie, mais c'est plutôt ma petite Occitanie, une petite Occitanie qui irait, disons, je sais pas, de Agen à Nîmes et de Rodez aux Pyrénées.
Oui, on ne va pas jusqu'aux Alpes,
hein,
on pense pas.
Et c'est pas cette Occitanie revendiquée peut-être au 19e qui allait de Bordeaux jusqu'à Limoges, qui redescendait vers Vintimille, le pays niçois, que je ressens alors là pas du tout.
Et même maintenant, hein, c'est quand même un grand territoire, c'est actuellement. L'Occitanie.
Aujourd'hui, quand on dit Occitanie, bon, on pense à l'Occitanie administrative avec le rapprochement des deux régions, Languedoc et Midi-Pyrénées.
Oui. Exactement. Alors, ma petite Occitanie, vous dites-vous, est plus qu'une langue et qu'une terre, mais plutôt l'imbrication de ce tout, ce qui m'a été donné et que j'ai apporté. J'ai bien amené aussi ce que j'ai apporté, parce que chacun amène aussi sa pierre, hein.
Oui,
caillou.
Tout à fait. Donc, en fait, sur cette quête que je me dis, donc, comme je vous disais au début, je suis occitan, mais je ne le sais pas ou je ne sais pas trop pourquoi. Donc, mon idée, c'est de partir des choses évidentes. C'est quoi ? C'est l'enfance, les souvenirs d'enfance qui construisent vraiment mon sentiment d'être d'ici. Et ensuite, donc, je mêle ça avec l'histoire, parce que une histoire un peu abrégée, mais voilà.
Ça fait du bien au lecteur.
Pour
ça
recadrer le tout.
Absolument, et de rafraîchir les mémoires. Vous dites, toujours dans cette citation, vous dites donc que c'est un puzzle fait de pièces dont aucune est indispensable, mais toutes nécessaires.
Oui. Donc, dans cette quête, ce sont des petites choses, donc souvenirs d'enfance, l'accent.
Souvenirs de jeune fille aussi.
Souvenirs de jeune fille. Le fait qu'à un moment donné, je quitte l'Occitanie pour être étudiant à Paris et où je prends plus conscience de l'Occitanie en étant loin qu'en étant présent. Voilà, oui, c'est ce genre de petits détails qui fait que...
Ouais. Et ce que vous dites est très juste. Je pense que quand on est loin, tout d'un coup, on réalise... On ne va pas dire que ça nous manque forcément, mais c'est en arrière-fond et on sait que c'est là.
Voilà, c'est tout à fait ça. Et donc, en plus, cette période où je suis par exemple à Paris étudiant est une période dans les années 70 où il y a toutes ces manifestations assez de gauche, on va dire, avec chaque fois donc, des événements musicaux.
C'est excitant, étudiant, oui,
voilà,
évidemment.
Événements musicaux où il y avait tous les régionalistes. Il y avait Alain Stivell pour la Bretagne, Marty pour l'Occitanie.
Que nous entendons tout à l'heure,
Roger Suffert pour l'Alsace, voilà. Et ils venaient systématiquement, voilà. Et donc, d'un coup...
C'était une effervescence.
Voilà, il y avait le Larzac, il y avait Volem Vivre al País. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui fait que ça parlait de l'Occitanie en étant assez loin.
Alors, dans votre ouvrage, il n'y a pas de cliché, il n'y a pas d'auto-proclamation, de satisfaction béate, mais alors quelque chose de simple, d'évident, et c'est à la fois plein de, je dirais, de bonhomie, bienveillance et de finesse. Alors, en fait, évidemment, le lieu auquel on est vraiment attaché est fait de souvenirs d'enfance. De quoi tiennent vos souvenirs ?
Alors, mes souvenirs qui fabriquent mon Occitanie, ma petite Occitanie, c'est surtout donc la vigne et le village, de mes grands-parents maternels. Et tout ce qui se rapporte pour moi, au fond de moi, à l'Occitanie vient de là. Et bizarrement, j'avais donc une partie de ma famille paternelle qui habitait Nîmes et dans les faubourgs de Nîmes et qui est tout aussi occitane que ceux de la campagne et où j'allais aussi en vacances de la même façon. Mais ça ne me parle pas de l'Occitanie. Alors c'est vrai que le village parlait patois, déjà la ville au milieu du 19e, du 20e siècle, il n'y avait plus de transmission de patois.
Dans certains quartiers, il parlait encore, mais beaucoup moins.
Oui, mais beaucoup moins déjà, parce que là, je parle des années 60. Et déjà, vraiment, la transmission s'est arrêtée dans les années 50. Ouais. Et à partir des années 50, la transmission de l'occitan ou du patois se faisait uniquement par les grands-parents.
Oui, c'est vrai. Voilà. Mais tout à l'heure, hors antenne, on parlait de Peyarotte, avenue Camille Pujol. Quand je venais en vacances chez ma grand-mère, on entendait Peyarotte, il vendait des pots, il achetait des pots de lapin. Ou des...
Voilà. Et c'est vrai que donc en dehors du patois parlé couramment et tout le temps, il y a énormément d'expressions qui ont passé et que
vous nommez d'ailleurs quelques-unes.
Jamais pas mal.
Et on peut faire référence à cet écrivain Vavasori, je me trompe pas, qui a écrit
à Pistodenas,
oui. Il s'appelle Vavasori, non? Il est italien d'origine. Et
donc c'est une collecte de tous ces mots ou de ces expressions de l'occitan qui sont devenues monnaie courante.
Qu'on utilise encore, vous savez, vous parlez de la malle pour dire le coffre de la voiture.
Et donc il y a ces expressions et il y a aussi que ce que je dis, c'est que j'ai l'impression que je l'ai dit assez naturellement selon où je suis. C'est-à-dire, si je suis avec mes amis d'ici, on emploie ces expressions. Mais si je vais faire une interview à Paris, par exemple, elle passe pas. Ou alors, c'est peut-être une forme de courtoisie, c'est-à-dire de ne pas employer des expressions que mon interlocuteur ne comprendra pas. Ça doit se jouer sur des choses comme ça.
Mais je me suis rendu compte que nous avons un ami breton, c'est pareil. Un jour, il me dit « tantôt ». Je lui dis « qu'est-ce que ça veut dire, ce tantôt ?» Et en Bretagne, ils disent « ce tantôt ». Ici, on ne le dit pas. Je n'ai pas l'impression. Et ce que vous dites, c'est vrai aussi. Et moi, je dois vous avouer que je prends un malin plaisir à utiliser des expressions passées. Je crois qu'il faut les maintenir.
Tout à fait.
Il faudrait faire une association.
Alors, il y a effectivement les expressions passées purement occitanes et il y a aussi toutes les expressions très françaises en termes de sonorité et qui sont des traductions de l'occitan en fait. Par exemple, au lieu de dire « j'ai fait tomber », on dit « j'ai tombé la serviette ». C'est parce que c'est la traduction littérale de ce qui se disait en occitan. Ces fautes françaises sont en fait que des traductions mal importées.
Et puis, on reparlera de l'accent, mais vous m'avez fait rire parce que vous avez avez passé un examen dans lequel vous étiez plutôt content du résultat, mais il y avait la prononciation d'une personne.
Voilà, oui. C'était donc, j'étais tombée sur les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, et donc un passage avec Madame de Varens, et donc l'examinatrice qui était apparemment avait un accent pointu, elle me dit non, Madame de Varens, et je savais pas du tout
ce qu'elle voulait dire,
donc, et j'ai continué avec des Varens longs comme une.
Oui, elle était dépitée, j'ai l'impression.
Oui, et donc elle m'a fait une petite réflexion. Je me rappelle pas exactement les termes exacts, disant bon, ils sont d'ici, enfin un truc un peu abattu, quoi.
Oui. Alors, on parle des mots, on en parlera encore. On parlera de la vigne aussi tout à l'heure. Bon, c'est de l'époque de la guerre d'Algérie, et ça, c'est en toile de fond quand même, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui sont partis en Algérie, et ça, c'était certainement plus sensible dans les villages encore que dans les villes.
Alors, je ne sais pas, moi, j'étais assez jeune, donc là, et le souvenir que je rappelle, c'est donc un souvenir du village où j'étais en vacances d'été.
Oui.
Et où donc il y a un jeune homme du village qui est tué en Algérie. Et oui. Donc,
qui était
pas loin de la maison des grands-parents, oui. Sort ce cercueil avec le drapeau français. Et donc, et tout le village dans une émotion que je n'avais jamais
ressentie.
Oui. Et c'est une image très forte qui m'est restée. Voilà,
certainement, voilà, Oui. Alors, évidemment, il y a le rugby qui incarne le midi. Et alors, vous parlez à un moment donné des parrains. Alors ça, j'ai découvert que Macorlan, Blondin, Tillina, qui étaient les parrains de rugby.
Je dis parrains, c'est des gens qui ont écrit et très bien écrit sur le rugby. Quoi.
Oui. Et alors, vous n'avez pas nommé le chantre du rugby, Alain Coudert.
Roger Coudert. Si, je le dis à un moment donné, fait sur l'accent, en disant que c'était une des rares personnes.
Ah oui, peut-être. Oui.
Non, c'est pas sur le chapitre rugby, mais je le mentionne à un moment donné, parce qu'il est gersois, que c'est une des rares personnes qui avait l'accent à la télévision.
Qu'on acceptait.
Ça faisait partie un petit peu du folklore.
Oui, oui. Alors, bon, et puis, vous parlez de la pêche. Alors, souvenir d'enfance. En plus, dans un village, un enfant est beaucoup plus libre que dans une ville, hein, certainement, déjà. Et vous parlez de la vigne. Alors là, c'est une vraie tradition.
C'était la vigne de mes grands-parents, en fait. Oui. Donc, y avait effectivement tous les travaux saisonniers. Il y avait ce temps des vendanges qui était quand même, à l'époque, un temps de fête dans le village.
Puisque... Et en y réfléchissant, les vacances étaient jusqu'à mi-septembre, en fait.
Fin septembre.
Vous ne rentriez pas 1er octobre ou vous êtes jeune
Non, les vacances étaient prolongées, nationales quand même,
oui.
Mais pour que les enfants du Languedoc puissent faire vendanger, quoi.
Oui.
Aider la famille.
Et c'est vrai que c'est tout un cérémonial, mais c'est toute une atmosphère, les vendanges, quand on les pratique.
Oui, alors je crois qu'aujourd'hui, avec les machines à vendanger, ça a dû changer beaucoup, mais je le vois de moins près. Mais à l'époque, c'était effectivement l'école qui partait, les repas, les déjeuners. Enfin, c'était quand même... Le village était en fête.
Oui. Et vous dites à un moment donné, justement, vous parlez, ce village, donc vous connaissez bien, et puis vous avez rencontré beaucoup de monde, je pense, grâce à vos grands-parents. Vous dites les vies et les souffrances de ceux qui m'ont précédé m'attachent au midi. C'est important, ça.
Oui, c'est-à-dire que. Je suis plus attaché. Enfin, si je parle du midi, je suis beaucoup plus attaché au lieu qu'au paysage. C'est-à-dire le côté du paysage, esthétique, enfin, l'émotion, etc. Bon, ce qui m'attache vraiment, c'est les lieux au sens où des gens ont vécu soit des moments historiques, soit du quotidien, et que je peux ressentir assez fortement une filiation en me disant ils étaient dans ce même endroit, ils ont entendu la même rivière qui coulait, les mêmes oiseaux.
Voilà.
Et ce décor me ramène... m'offre une proximité avec ces gens du passé.
Oui, tout à fait, oui. Et c'est ça, cette continuité qu'on aimerait bien transmettre à nos enfants.
Voilà, qui va se transmettre.
C'est moins évident.
C'est moins évident. Si, je pense que... on ne transmet pas ce que nous, on a vécu, mais ils vont aussi avoir des souvenirs de Toulouse,
oui.
Etc.
Absolument.
Et je pense que le schéma fonctionnera différemment, mais ça sera quand même dans la même philosophie.
Absolument, oui. Alors... on parle de territoire. Moi, j'avoue que j'ai du mal à voir tellement l'unité de l'Occitanie telle qu'elle est actuellement. C'est tellement vaste entre... Alors évidemment, l'occitan se comprend. J'ai un beau-père qui venait des Hautes-Alpes, il comprenait l'occitan dans les montagnes pyrénéennes. Mais c'était un petit peu différent quand même. C'est un très grand territoire.
Oui, enfin, donc il y a plusieurs dans la langue occitane, il y avait plusieurs régions, il y a
les plusieurs dialectes,
l'Issaranis, oui. Le Béarnais, enfin bon, oui. tout ça faisait un amalgame. Je pense que les gens, c'était des langues romanes, bon, arrivaient pour certains donc à peu près à se comprendre, mais c'était pas si évident que ça non plus.
Oui, ça paraît un peu à mon goût, un peu trop étendu, mais peut-être je sors en fait. Hein. En tout cas, l'occitan, on parle de la langue, donc c'est des dialectes. Le romain, les romains avec le latin intègrent l'occitan ou l'inverse, je ne sais pas.
Alors en fait, l'occitan, je crois, se bâtit vraiment entre le 8e et le 10e siècle et s'est fait du latin classique, du latin parlé. Des idiomes barbares, les Alains, les Vandales, les Visigoths qui sont venus, et des langues locales qui existaient chez les Rutènes, chez les Occitains, etc. Et c'est pendant deux siècles, et c'est dans ce creuset que naît petit à petit l'Occitan. Et qui a ses heures de gloire, on va dire, autour du XIIe siècle, avec les troubadours, qui sont le fait marquant. La première Bible qui est traduite en langue occitane le Limousin, ça doit être à peu près dans ces périodes-là. Et là, ce qui manque à l'Occitan, à la langue occitane, c'est un État pour qu'elle puisse vraiment se déployer et devenir plus importante que ce qu'elle n'a été. Et sans institution forte derrière... Voilà,
bon, et puis il faut dire qu'après il y a eu
l'épisode de Qatar, etc.
Oui, voilà. Le pouvoir central. Alors, venons-en justement à l'histoire et de quoi nous rafraîchir la mémoire sans nous accabler de détails et souvent avec des pointes d'humour, des réflexions. Bon, on découvre en fait, moi honnêtement j'avais complètement oublié, qu'on a été très souvent envahis des barbares, des arabes, des berbères, des vikings et même des magyars.
Oui, ça a été des périodes de...
Est-ce qu'ils ont laissé des choses? Est-ce qu'ils ont détruit? Est-ce qu'ils ont laissé?
Alors, je ne saurais pas dire... Bon, les Visigoths, oui, parce qu'ils ont occupé longtemps et même à la fin, ils ont gardé ce qu'on a appelé la Septimanie, qui allait de Narbonne à Nîmes. Oui. Et même, il y avait un président de région, Georges Frêche, qui voulait renommer...
qui est venu ici.
Ah, d'accord. Et qui voulait renommer donc le Languedoc, la Septimanie, à part que je pense que 95% des Languedociens ne savaient pas absolument pas ce que c'était la Septimanie, mais qui a été un royaume assez important et qui a duré.
Oui. Alors, à un moment donné, il y a une sorte de scission entre le nord et le sud après Charlemagne. Charlemagne avait fait une sorte d'unité quand même.
Oui, en fait, vraiment, je crois que il y a une sorte de scission, c'est-à-dire que les aristocrates, les barons du sud voient le roi comme étant quelque chose de très lointain, ils en font qu'à leur tête. Et donc il y a même des ordonnances qui sont rédigées en disant « le roi étant absent ». Donc ce qui montrait quand même un peu la distance qu'ils avaient mis. Et tout va basculer après la croisade des Albigeois. Quand d'un coup, l'Occitanie, qui était finalement vue comme le nord de la péninsule ibérique, va devenir le sud de la France.
La France, oui. Voilà. Vous en avez dit un mot tout à l'heure, mais effectivement, il y a à un moment donné l'apparition de l'amour courtois et des mœurs moins belliqueuses. Je pense moins belliqueuses que dans le nord, même.
Oui, c'est ça, oui. C'est... Oui. Par rapport au roman de chevalerie, il y a quand même toute une approche... beaucoup plus douce, où la femme est mise en situation, etc.
Tout n'est pas parfait, mais
quand même. Non, tout n'est pas parfait. Alors après, il ne faut pas non plus...
Il n'y a pas mis tout, non.
Non. Et puis, il y a surtout eu au 19e, je crois, ils se sont un peu enflammés sur l'Occitanie, parce que de la même façon qu'il y avait le roman national de Michelet, il y a eu un peu le roman occitan. Qui ont été faits par plusieurs, enfin Marie Lafont, etc.
On embellit
là, parce que si on prend l'histoire de la femme qu'on semble célébrer à travers les troubadours, c'est quand même à la même époque où on essaie d'empêcher les femmes d'hériter. C'est-à-dire les femmes étaient à l'égal des hommes en termes d'héritage sur les terres. Et c'est à cette époque où, petit à petit, on les écarte de l'héritage. Alors, oui. On leur fait de beaux poèmes, des pastorelles et des canzons, mais...
Contentez-vous de ça.
Voilà.
Alors, puisque nous parlons de l'amour courtois, de la langue, on va écouter justement le chanteur Claude Marty, hein, c'est bien ça. Nous l'écoutons tout de suite.
Et tu, mon miracle, des vignes, d'olives et de mel. Et tu, mon miracle, calou, torrado, infer. Podes cantar y galos. Espas, fila de la nuez, sus nostro perro blanco. Espas, nos cunderes. Et tu, mon miracle, secli per secli, bastit de sang et de cardones, secli per secli, noiri, podets cantar cigalos. Nostro plaçó és així, cride la tramuntana, nos farà pas per a ti. Ed il mon miracle can la vigna va mal. Ed il mon miracle nos cal barra l'ostal. Volets cantar cigales. Se lo ve, es malao, se es nuestro terro blanco, Marceli tornará.
Prenons avec Alain Monnier. Nous sommes en sa compagnie et il vient nous parler de Petit éloge amoureux de l'Occitanie paru chez Privat. Et nous sommes donc en pleine Occitanie, mais également à une autre époque. Alain Monnier, j'ai aimé me souvenir avec vous de d'une certaine époque. Vous étiez étudiant. Moi, j'étais déjà mère de famille, hein, je dois vous dire. Mais justement, vous évoquez beaucoup de choses qui ont marqué nos esprits. Est-ce que vous pouvez nous lire un passage qui correspond donc à ce temps ?
Oui. Pour rapidement donner les couleurs de cette décennie qui suivit mai 68, il me faut mentionner la lutte exemplaire des ouvriers de l'IP, l'émission Marche au rêve de Claude Villers sur France Inter, sur l'Eugénistine et son archipel du Goulag, Emmanuel Leroy-Ladurie et son Montaillou village occitan, l'émission Campus de Michel Lancelot, Les mots pour le dire de Marie Cardinal, Charles Boil, Le gabin ordinaire, Le nouveau désordre amoureux d'Alain Finkielkraut et Pascal Bruckner, les séminaires de Lacan sur lesquels je suais sans rien comprendre, mais en recommençant régulièrement, Jacques Higelin qui alertait les bébés, Orange mécanique de Kubrick et de Burgess, Lévi-Strauss et le structuralisme, l'ouverture de Beaubourg, mythologie de Roland Barthes, les films de Fassbinder, les films de Nagisa Oshima au Saint-André-des-Arts, les cafés-théâtres, le vrai chic parisien et le café de la gare, Agigi Mouna, dont je rappellerai deux des revendications récurrentes, la grossesse à 6 mois et la vélorution est en marche. Son « Réveillez-vous » hurlé depuis son vélo chargé de réveil avait une autre allure que le sinistre « Indignez-vous » qui a fabriqué une génération d'indignés aigris. Il y avait aussi les luttes antinucléaires avec Malville, en point de mire en juillet 1977, et bien sûr le Larzac et son fameux « Gardarène au Larzac ».
Eh oui, que de souvenirs. Alors, à part, je dois vous dire que je ne connaissais pas Nagisa Oshima, mais Agigi Mouna, pardon, mais je reconnais que la grossesse à 6 mois et la vélorution est en marche, ça devait être assez drôle.
Agigi Mouna est un monsieur qui vivait plus ou moins dans la rue, dans le quartier latin. Et un personnage et qui montait sur des tribunes pour haranguer la foule et tout le monde s'arrêtait pour l'écouter.
D'accord, d'accord. Oui, c'était extrêmement animé. Hein. C'était une période quand même où ça bougeait beaucoup. Alors, on a tout à l'heure dit un mot du catharisme parce que ça a eu une place importante dans nos régions.
Oui, le catharisme donc a eu une place importante et dans l'histoire et surtout après, je crois que donc il renaît entre guillemets au 19e siècle avec Napoléon Perrat qui était un pasteur ariégeois qui remet les cathares sur le devant de la scène. C'est très repris au 20e siècle avec Roquebert, etc.
Oui,
donc
qui
ont vraiment travaillé sur le sujet. Et là, je me permets donc un petit résumé en une page et demie pour tous les gens qui ont entendu parler du catharisme sans trop savoir ce que c'est. Et je me permets un peu d'humour en restant bienveillant avec eux, en leur remettant une place peut-être un petit peu plus juste.
Vous parlez d'une forme de tolérance à un moment donné. Et je me suis dit, mais enfin, en même temps, les parfaits, ils avaient une vie qui était quand même très stricte.
Ah oui, ils étaient très stricts. Je parle tolérance, mais disons, je crois qu'après, on en a trop fait sur les cathares. Et typiquement, le petit exemple que je cite, c'est qu'à Carcassonne, vous trouvez de nombreux restaurants. Enfin, on trouvait de nombreux restaurants avec l'entrecôte cathare, sauf que les cathares étaient végétariens.
Oui.
Voilà, donc,
on l'a mise à toutes les sauces.
Voilà, et c'est le cas de le dire.
Voilà, oui. Et alors donc...
Et je sais quand même très rapidement et de façon assez simple pour que tout le monde, lisant ce livre, puisse à peu près voir de quoi il s'agit, faire un petit résumé de ce catharisme pour montrer à peu près les bornes de la chose et de façon tout à fait accessible. Parce que j'ai quand même lu des livres sur le catharisme où on est assez vite perdu, sauf si on est...
Tandis que là, effectivement, et même parfois des réflexions qui sont très, très drôles, mais effectivement, c'est tout à fait accessible et c'est bien. Et en vous lisant, je me suis dit, mais dans le fond, il y a cette idée de sorte de réincarnation qui fait penser à l'hindouisme. Je n'avais pas pensé à ça.
Oui, et c'était quand même quelque chose d'assez accessible, je veux dire, par rapport à le fait qu'on ne porte pas le mal, ça enlève un petit peu le poids, du poids. Donc, toutes les classes sociales pouvaient faire la démarche et passer là. Et je crois, d'après ce qu'on peut lire, que c'était des gens qui vivaient à côté des autres de façon assez humble et honnête. Et ça pouvait être un marqueur d'acceptation forte par rapport à un clergé qui, des fois, était un peu plus compliqué à vivre.
Oui. Alors, vous dites encore, très souvent, vous dites, je suis d'ici par le territoire, par les sentiments, par une façon de se retourner sur le passé, par la dureté des choses anodines dont on s'accommode. Effectivement, cette histoire comporte des passages très durs, en fait. Hein.
Oui, l'histoire, et puis, je ne voulais pas tomber aussi dans le propos qui ferait que parce que c'était mon enfance, les grands-parents, tout était facile, tout était heureux, joyeux. Je veux dire, c'est des gens qui ont eu des vies peut-être même beaucoup plus dures que les nôtres, sur les conditions de travail, sur des conditions, ils ont traversé des guerres, sur l'alimentation. Oui, oui. Enfin, il y a eu des moments difficiles. Oui. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis, voilà, on est dans la filiation d'une terre où il y a eu des choses difficiles à vivre aussi. Quoi.
Oui. Oui, justement, oui, vous parlez à partir de 1970 des problèmes viticoles. Il y a eu des émeutes, il y a eu beaucoup de violence, il y a même eu 2 morts parce que les gens étaient quand même, c'était difficile pour eux.
Oui, donc sur l'histoire de la viticulture, donc il y a eu les grandes révoltes de 1905.
Oui. Et puis après, donc plus tard aussi.
Marcel Albert. Après, ça a été dans les années 30 les problèmes avec les vins d'Algérie. Dans les années 70, ça a été l'ouverture du marché commun avec les problèmes des vins italiens. Voilà. Et chaque fois, il y a eu quand même des moments de grande violence.
Et chacun s'est dépossédé. Et vous dites, il y aurait beaucoup à dire sur ces moments qui mêlaient revendications des viticulteurs, mouvements d'extrême gauche, relents du régionalisme xénophobe, colère contre les étrangers que la civilisation des loisirs amenait vers le sud, exaltation de la race d'oc, d'où sortait-elle, et recherche du bouc émissaire, cette fois italien, mafieux et misérable.
Oui, ça c'est...
On cherche toujours, Will.
C'était pour rendre compte de dans les années 70, et ce que je cite, en fait, c'est dans les propos et dans les discours qui étaient prononcés par les leaders de la viticulture. Et c'était aussi un amalgame entre des trucs d'extrême gauche, des viticulteurs qui n'étaient pas d'extrême gauche. Ça faisait tout un brouillard autour qui était un amalgame de choses et d'envies différentes.
En vous écoutant, je me dis que c'est peut-être ce que nous vivons un petit peu en ce moment aussi.
Oui, je pense que dans la protestation, je crois qu'il y a des tas de protestations qui n'ont rien à voir et qui peuvent être même contradictoires les unes avec les autres.
Absolument. Alors, au XIIIe siècle, nous revenons en arrière, une population apaisée, mais pas pour longtemps. Et encore et toujours, il y a quand même ce qu'on retrouve toujours dans le Sud, le refus de l'autorité. On ne veut pas se laisser asservir. Le refus de l'autorité, et surtout quand elle vient du Nord. C'est quand même la nostalgie des pouvoirs locaux, vous le dites aussi.
Oui, alors c'est vrai qu'on est dans une période où il y a beaucoup, beaucoup de révoltes en France, mais notamment dans le Midi. Et c'est vrai que toutes ces révoltes prennent des noms, les camisards, les croquants, il y en a beaucoup, les sabreurs. Et il y a même des, alors peut-être que c'était repris volontairement, les bonnets rouges en Bretagne. Donc ça, c'était pas en Occitanie, mais voilà. Et donc du coup, les gilets jaunes sont dans l'affiliation de
tout à fait. On a changé de couleur, mais l'esprit est le même. Alors, et vous parlez également du protestantisme dans le Midi. Bon, ça a été le pays de la réforme, d'une certaine manière.
Oui, ça a été le pays de la réforme et ça l'est devenu d'autant plus que les protestants ayant perdu des luttes, petit à petit,
descendre.
Ont dû descendre et sont descendus de plus en plus et jusqu'à être donc chassés au temps de Louis XIV. C'est la période du désert, c'est la période où beaucoup de protestants partent en Afrique du Sud, à Berlin, fonder d'autres colonies.
Oui, alors la révolution, on n'en parlera pas maintenant, mais vous dites une chose qui est très vraie, la révolution industrielle, on est passé à côté.
On est passé à côté, et même les mines à l'Est, etc., ou
Carmaux aussi,
ne provoquent pas, des faits comme dans l'Est ou dans le Nord de la France.
Oui.
Et c'est aussi assez
trop isolé, peut-être.
Je ne sais pas, peut-être par les voies de circulation
ça,
qui effectivement ne sont pas forcément faciles entre elles. Et ensuite, né à cette époque aussi, ce dénigrement de l'homme du Midi.
Ah, je voulais y en parler.
Où le 19e est assez virulent là-dessus.
Y compris Alphonse Daudet.
Mais oui.
Je suis très déçue.
Donc, ce dénigrement, et il y a donc la forfanterie, la lâcheté, la couardise du midi,
la paresse.
Et donc, la paresse, c'est en face-à-face avec le Nord qui est vaillant, industriel, travailleur.
Ils disent que c'est parce qu'il fait chaud, peut-être.
Et qui nourrit un peu le midi, oui. Qui sont des paresseux.
Et vous notez très justement qu'en Catalogne, on dit ça des gens du sud de l'Espagne. Dans le nord de l'Italie, c'est pareil.
Pour les Napolitains, voilà.
Oui. Alors, vous dites, oui, là, on dit que les gens vivent sur le dos des gens du nord. On dit aussi que les politiques montent à Paris pour faire carrière, mais ils ne respectent aucune règle. Oui, voilà.
En fait, donc, ce nord qui a voulu intégrer dans la nation le sud...
Le refuse.
D'un coup, quand le Sud se met à être vraiment à intégrer et à prendre des postes, que ce soit en politique ou ailleurs, les gens se rebiffent et n'ont pas du tout envie de laisser la place les places.
Oui. Et quand on parle de l'accent de Jaurès, vous citez, je suis outré. À un moment donné, on se moque de l'accent de Jean Jaurès.
On le cite, je crois pas que cette époque on s'en moque. Je veux dire, le nombre de politiciens qui avaient l'accent Jaurès, Déroulède, ils sont très nombreux, Gambetta.
Notre ancien Premier ministre, Castex, on s'est quand même un peu moqué de son accent.
Oui, hein. Mais aujourd'hui, il y en a très peu d'hommes politiques qui ont l'accent. Il y avait Gaudin, Pasqua, mais c'était des gens qui presque le surjouaient et qui en faisaient une coloration personnelle. Aujourd'hui, il y a eu Castex qui, évidemment, s'est fait moquer
au début
par Paris Match. On a cité le cas de Mélenchon qui se moque d'une journaliste de France 3 à Marseille parce qu'elle a l'accent. C'est une façon d'éviter de répondre à la question qui l'embarrasse.
Absolument, voilà. Oui. Voilà. Alors, parce que on dit que le français est beaucoup plus chic. C'est parlé par des gens qui sont bourgeois, qui ont un certain niveau culturel ou financier. Le patois paraît vulgaire, voire régressif.
Oui, c'est-à-dire que en fait, le français est rentré petit à petit. Au début, c'est le langage dit de la Révolution. Puisque c'est la Constitution qui dit « maintenant le français », etc., on se rend compte qu'il n'y a que 3 millions de Français qui parlent français sur les 28 millions du pays. Donc là, il y a un changement. Et du coup, les patois deviennent un petit peu le langage de la réaction des conservateurs, des royalistes qui le défendent.
Oui.
Et au milieu du 19e siècle, les classes bourgeoises adoptent le français. Et ensuite, ça va être les faubourgs des villes au début du 20e siècle qui, petit à petit, passent au français en espérant que leurs enfants, par l'éducation, vont mieux réussir. Ouais. La guerre de 14 aussi fait beaucoup. C'est-à-dire
il y a un melting pot, là.
Il y a un melting pot, donc... À un moment donné, il y a des bataillons du Limousin qui ne comprennent pas les ordres d'officiers qui parlent en français. Mais il y a surtout que c'est devenu le français la langue du combattant et que beaucoup, la correspondance, les soldats veulent parler français.
Oui, voilà.
Voilà, c'est des choses... Voilà. Et c'est toutes ces petites choses qui construisent que la domination du français, la disparition des langues locales.
On n'en a pas honte, mais on a une certaine nostalgie, en finale.
Oui, alors après, donc maintenant que le français est difficilement adopté, après on s'est attaqué à l'accent. C'est-à-dire début.
Attendez, mais on oublie que quand même, on a créé des calendrettes.
Ah oui, alors là, c'est bien plus tard. Oui, ça c'est pour dire le retour de l'intérêt des langues.
L'histoire est un serpent qui se mord la queue, on le dit. Oui, alors l'accent. Alors là j'ai beaucoup ri parce que figurez-vous que je suis arrivée en Allemagne. Et je ne venais pas de Toulouse, je venais d'Algérie. Et là, le professeur me faisait réciter les fables de La Fontaine. Et il adorait mon accent. Et mon mari qui venait de Nice, alors l'accent niçois est redoutable.
Ça,
Et lui aussi à Paris, me disant que le professeur riait de l'entendre parler. Voilà, alors bon, le O, le E muet se prononce différemment parce que c'est l'occitan finalement, ce sont des vestiges occitans.
Oui, c'est en fait, l'accent vient du fait qu'on a appris le français comme une langue étrangère, en gardant quelque part l'éthique ou les... Non, je ne dis pas l'éthique, c'est pas le bon mot, mais les façons de prononcer l'occitan. Comme moi, quand je parle anglais, je parle avec un accent français. Oui. Ben voilà, on a appris le français en gardant un accent occitan.
Oui. Et on parle maintenant de la glottophobie.
Oui, donc ça, moi, c'est un truc qui m'énerve un peu. Donc, les phobies qu'il y a... Et donc, il y a l'islamophobie, la grossophobie. Et il fallait bien qu'il y ait un député qui s'empare de la chose et qui veuille qu'on punisse la glottophobie, qui est le fait de se moquer de l'accent de quelqu'un.
Alors, en revanche...
Voilà, et là, je dis que ça ne me convient pas du tout. Quoi.
Absolument. Mais en revanche, j'ai vu, et vous le mentionnez, quelqu'un dont les propos étaient sous-titrés. Et là, j'ai trouvé que c'était un peu exagéré, quand même.
Voilà, c'est... Oui. Et ça, donc, c'était sur un documentaire, donc c'est un berger qui est interviewé, qu'on comprend. Mais que la chaîne décide que c'est pas assez, ça sera trop difficile à comprendre et exige que ce soit sous-titré. Et pour la réalisatrice qui avait fait le film, c'était très gênant par rapport à ce berger, quoi, qui allait regarder l'émission et qui se voit sous-titré.
Oui,
c'était presque blessant.
Oui, un peu blessant, oui. Alors, pour parler de la mentalité, on en a parlé tout à l'heure de cette violence, hein, quand même, qui est un petit peu, on le voit dans le rugby, de la paresse. Enfin, quand je parle du rugby, maintenant, avec le foot, c'est pas mal non plus. Oui. De la paresse, de le refus de l'autorité, de la hiérarchie, du manque d'ambition. Bon, pourquoi pas, mais maintenant, on n'y croit plus trop. Hein. Mais vous soulignez la gentillesse, la bonhomie, pas la bêtise, et l'altruisme. Et ça, c'est un fait que lorsqu'on va à Paris, par exemple, là, on est effaré. On peut établir des comparaisons.
Oui, alors je parle de la mentalité, je mets effectivement en avant deux choses avec beaucoup de prudence parce que dès qu'on fait des généralités, il est très facile d'avoir des contre-exemples contredire. Mais il n'empêche que ces idées générales portent une tendance. Enfin, moi, je crois vraiment à ça. Et donc, je mets en avant la gentillesse, qui est une vertu ou une fausse vertu qui est très moquée ou qui est très facile à moquer.
Parce que les gens parlent facilement, s'intéressent.
Je ne sais pas, mais toujours est-il que chaque fois que je suis partie et que je suis revenue, j'ai eu un moment dans un magasin, que ce soit dans le Tarn, dans un village, où je me suis dit, ah oui, les gens sont gentils ici. Ouais. C'est une réflexion que je me suis faite souvent et c'est pour ça que je mettais cette gentillesse. Et je cite quelques personnes, je sais reconnaître cette forme de bonhomie, de bienveillance.
Comme vous dites, c'est pas péjoratif du tout.
Et je cite par exemple Rémi Pêche, l'ancien président de l'université qui a écrit beaucoup sur le grand spécialiste de Jaurès, aussi. Que j'ai rencontré dans un salon. Et d'emblée, il y avait une forme de... Présence, de propos chaleureux, de présence, qui fait que je savais qu'il était de chez moi.
Et vous parlez également d'humilité qui est faite de retenue, de discrétion malgré tout, et d'humilité. Oui, humilité, c'est pas forcément l'idée de se mettre en avant. On parle, mais on va pas parler forcément de soi.
Ou en tout cas, je le mets en opposition avec par exemple la Catalogne ou le Pays Basque ou les Corses. Où il y a une revendication et ce nationalisme ou ce régionalisme très populiste, exacerbé où les femmes chez moi sont plus belles, la cuisine est meilleure, les garçons sont plus forts.
Absolument.
Tout ça est assez épuisant. Quoi.
Alors pour terminer, si vous permettez, je vais lire un extrait de votre ouvrage. Finalement, je suis occitan dès lors que j'enlève de ce mot l'esprit de clocher, le ressentiment contre Paris, le sentiment d'infériorité, la complainte du plaignant, la conscience d'être victime de l'histoire. Je ne suis pas de l'Occitanie qu'on a fabriquée au XIXe siècle. Je ne suis pas l'Occitan qui rêve d'indépendance et qui adore son propre reflet. Mais je suis simplement de ce pays, avec les miens, avec les hommes qui labourent les vignes, avec les femmes qui écrasaient les tomates mûres au mois d'août, avec ceux qui aujourd'hui ont l'esprit de village tout en vivant en ville, qui sourient intérieurement d'être pris pour des ploucs, qui apprécient ce qu'ils ont, avec ceux qui acceptent les décisions prises ailleurs pour peu qu'elles soient intelligentes et raisonnablement équitables. Je suis de l'Occitanie qui ne cherche pas à être autre chose qu'elle-même, qui ne se rêve pas en Silicon Valley ou en phare du monde de demain. Belle définition. Voilà, à laquelle on ne peut qu'adhérer. Merci. Alors, pour terminer, mais on va écouter Claude Marty. Un grand merci à la Monnier. Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de Petit éloge amoureux de l'Occitanie, paru chez Privat.
Merci.
Au revoir.
hasard, à quel poème, a tutto las venos con aimo, pendent qualche momento si crede. Ad aquello con conecta peno, che un destino differente e meno, e che jamai retrovare. Ad aquello con bel parece, uno secondo a sa finestra e poi presto che s'avvelì. Ma d'un lalingio silueto è tan grazioso e finito con un demoro regaudito. Alla compagno ti piace, tu lo sue, la sembaisace, fa la uscire, lo cammino, ti dà. Con sul beleo a comprene, e con dai show pasmente sempre, senza vessa mai. Gloria. Ad aquello che già son preso e che vivendo rados fredos per di un essere troppi ferenti posando inutile folio, dai sapere la melanconia di un divenire più di desens. Carossi maccia persevedos, speranzos di un giun perdidos, tu maret din l'oblio. Per pau che l'uomo si svenga, splasca con se subendo, così tutto lo cammino fuggente. Ma se non ha mancato sabido, un sommi a me nostalgia, accado con me, entre vite, al sputus con gauze pastrene, al scus che devo non vus attendere, a una gaccia mai re. Alaro al ser de gran lasiero, tutte in plena sassuleso, de fantaumo del subente, un pluro lai labros absentos, taquelos polidos passamos, con sabietà. Tieni per sempre.